Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on peut dire que la crise est essentiellement européenne. On parle aujourd'hui d'ailleurs d'une crise des dettes souveraines. C'est intéressant parce que, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, évidemment, la notion même de souveraine, enfin les dettes souveraines, ça semble un peu déplacée, en l'occurrence, parce que justement, c'est bien sans doute un problème d'absence de souveraineté. Qui est derrière tout ça. Et donc, en Europe, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, l'économie européenne a replongé depuis quelques mois dans une récession. Les perspectives pour l'année 2012 sont plutôt mauvaises et les incertitudes sur la suite sont énormes. Il faut aussi le souligner, c'est-à-dire que quand vous regardez les prévisions qui ont été publiées ces dernières semaines par les institutions internationales, l'OCDE, la Commission européenne, le FMI, ou par les instituts nationaux, tout le monde prévoit que 2012 va être mauvais, tout le monde prévoit que 2013 va être meilleur. Mais en même temps, on n'en sait rien. On ne voit pas très bien de quoi venir le rebond de 2013. Et on ne commençait pas à faire autrement. Toujours la même histoire. L'économie est élastique. Elle a tendance à revenir vers quelque chose qu'on appelle son sentier d'équilibre. Le problème, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que on ne sait pas très bien après la crise où il est ce sentier d'équilibre. Est-ce qu'il est au même niveau qu'avant? Est-ce qu'il est plus haut, plus bas, etc. Et ça, c'est pas anodin. Ce qu'on appelle la croissance potentielle. La croissance potentielle, c'est quelque chose que, ex post, on est tout à fait capable de mesurer, mais ex ante, on n'est généralement pas capable de voir où elle est. Alors, avant d'en venir là, je voulais juste quand même souligner quelque chose qui est propre à la zone euro, qui du moins dans la zone euro, complique singulièrement la gestion à la fois de la crise et de ce qu'on a appelé, proprement d'ailleurs, la sortie de crise, puisqu'on n'en sort pas. Enfin, donc pour revenir justement sur la crise, en 2008, je l'ai rappelé tout à l'heure, tous les gouvernements européens s'accordaient à dire, à l'automne 2008, qu'il était nécessaire à la fois de garantir les dépôts bancaires, de soutenir les banques, et puis de pratiquer une politique de relance budgétaire bien keynésienne. On a cru à un moment que c'était le grand retour de Keynes. Et en fait, évidemment, il n'existe pas au niveau européen, ni au niveau de la zone euro seulement, d'instrument permettant de mener ce genre de politique. Et donc, il a fallu s'appuyer sur la bonne volonté des États membres, chacun menant sa propre politique, avec le strict minimum de coordination. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en réalité, les politiques de relance qui ont été menées après 2008 dans les différents pays de la zone euro ont en fait été extrêmement différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une gestion concertée de la crise, on a eu simplement un objectif commun qui était de relancer, mais que chacun a relancé à sa manière. Et avec des politiques nationales qui étaient singulièrement divergentes. Et le deuxième aspect sur lequel j'insiste maintenant, c'est qu'en fait, cette crise est survenue dans un contexte où la zone euro était déjà extrêmement hétérogène du point de vue macroéconomique. Et que donc elle a aggravé ou elle a révélé un certain nombre de faiblesses et d'hétérogénéités sous-jacentes qui préexistait en fait à cette crise. Alors, avant d'aller plus loin, pour éviter tout malentendu, évidemment, je ne suggère pas qu'il n'existe pas au sein des zones monétaires existantes d'hétérogénéité, peut-être même d'hétérogénéité de même ampleur et de même nature. Hein, au sein de l'économie américaine, par exemple, les hétérogénéités sont très fortes aussi. Mais la grande différence, évidemment, c'est qu'aux États-Unis, il y a au moins deux différences. La première, c'est qu'il existe des instruments communs, fédéraux, pour gérer les chocs communs, alors qu'en Europe, il n'y en a pas. Et la deuxième, c'est que les hétérogénéités qui existent, elles ne sont en réalité pas vraiment rendues publiques. C'est-à-dire, personne ne les regarde. Et donc, comme vous savez, en économie, ce qu'on ne regarde pas n'existe pas. C'est bien connu. Donc, ça n'a pas d'importance. J'y reviendrai tout à l'heure à propos des balances courantes. au sein de l'économie américaine, entre la Californie et Massachusetts, entre le Dakota du Nord et le Mississippi, il y a sûrement des équilibres très importants, des balances courantes. Mais personne ne les publie, personne n'y fait attention, personne ne les regarde, et donc ça n'est pas un problème. Alors, pour bien comprendre ces choses-là, il faut quand même replacer tout ce raisonnement sur l'hétérogénéité ou l'homogénéité dans le cadre analytique qu'on a l'habitude de mobiliser pour étudier ces questions-là, qui est, disons, à peu près la théorie des zones monétaires optimales. La théorie des zones monétaires optimales de Mundell, on nous dit, voilà, si un groupe de pays forme une union monétaire, c'est-à-dire si ces pays renoncent à leur autonomie monétaire, s'ils adoptent une politique monétaire unique et une monnaie unique, un taux de change unique, alors il va y avoir des problèmes en cas d'hétérogénéité ou surtout, et c'était là-dessus qu'on avait mis l'accent jusqu'à la crise récente, en cas de choc asymétrique. Donc on nous disait, voilà, si certains pays subissent un choc alors que d'autres ne le subissent pas, le fait de n'avoir que l'instrument commun de la politique monétaire ne va pas permettre de gérer les ajustements. Et donc il va falloir que les pays aient une grande autonomie en matière de politique budgétaire pour pouvoir faire face aux chocs asymétriques. Bon. Et c'est finalement là-dessus, sur ce présupposé en quelque sorte, et dans ce cadre de raisonnement qu'a été élaboré le traité de Maastricht. Au fond, le traité de Maastricht, c'est vraiment une espèce de, on pourrait dire, c'est le résultat de cette vision des choses. On dit, bah, s'il y a des chocs communs à l'ensemble des pays de la zone, c'est la politique monétaire qui va les gérer, il n'y a pas de problème. Il y a bien un instrument commun pour gérer les chocs communs, c'est la politique monétaire. Et puis, s'il y a des chocs asymétriques, alors, de deux choses l'une. Soit les ajustements que Mundell avait décrits se produisent bien, c'est-à-dire mobilité du travail, mobilité du capital, etc., flexibilité des prix et des salaires. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de gérer, ça va se résorber, les chocs asymétriques vont se résorber tout seuls. Soit si on n'a pas ces conditions permissives de l'ajustement au choc asymétrique, alors il faut laisser aux politiques budgétaires nationales une grande marge de manœuvre, une grande indépendance pour réagir à ces chocs asymétriques. Et ça, bah, c'est Maastricht, la décentralisation budgétaire avec quelques règles qui sont de base de stabilité. Alors on viendra là-dessus tout à l'heure. Bon. Alors le problème, c'est que d'une part, cette représentation par des chocs de l'idée que les divergences sont dues à des chocs asymétriques. Elle, comme j'ai dit tout à l'heure, ça revient à cette histoire de choc exogène, mais cette fois différencié à l'intérieur d'une zone, et on voit que c'est pas très satisfaisant. Et en fait, c'était plutôt des mécanismes endogènes qui ont nourri les divergences. Et puis d'autre part, la crise de 2008 et suivante, ça n'est pas en fait un choc asymétrique, c'est au contraire un choc commun. Et le problème, c'est qu'on n'a rien en fait en dehors de la politique monétaire pour gérer les chocs communs. Et comme la politique monétaire elle-même, pour les raisons qu'on a vues précédemment, n'a pas su ou n'a pas voulu gérer, et parce que aussi elle ne suffit pas dans ce genre de choc-là, parce qu'elle atteint vite la trappe à liquidité, etc., eh bien, on n'avait pas les instruments qu'il faut. Alors, sur l'hétérogénéité, d'abord, ce que je voulais souligner là dans cette première partie, c'est que, en fait, cette hétérogénéité, elle était présente, il y a une espèce d'hétérogénéité qu'on pourrait appeler structurelle dans la zone euro, et qui résulte en fait, en partie au moins, des réponses différentes que les différentes économies de la zone euro ont apporté à leur intégration dans la zone euro. C'est-à-dire, c'est le fait précisément qu'elles aient été soumises à la même politique monétaire alors qu'elles étaient initialement différentes, qui a en fait nourri une divergence, et non pas, comme l'imaginaient certains, une espèce de convergence endogène qui aurait fait qu'au fil du temps, la zone monétaire serait devenue de plus en plus optimale. En fait, elle est devenue de moins en moins optimale, c'est-à-dire de plus en plus hétérogène. Alors, si on regarde par exemple, donc là j'ai un certain nombre d'indicateurs, on peut aller vite là-dessus, mais ce que j'ai fait sur ces trois, sur les tableaux qui viennent, c'est qu'à chaque fois, j'ai mis les moyennes par décennie, donc la moyenne sur les années 60, sur les années 80, disons le SME, la période du SME. Ensuite, la deuxième colonne, c'est la moyenne sur les années 90, c'est-à-dire la moyenne dans l'année, dans la décennie de transition vers la monnaie unique, avant le lancement de l'euro. Et puis la troisième colonne, c'est la première décennie d'existence de l'euro, entre donc, le lancement de l'euro en 99 et puis la veille de la crise, c'est-à-dire 2008. Alors, ici, le premier indicateur que je regarde, c'est le taux de change, le taux d'intérêt réel long, c'est-à-dire en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque pays, j'ai calculé ben, tout simplement des moyennes décennales, et puis que je compare. Donc en bas, vous avez l'écart type, donc, qui est un indicateur de dispersion, et qui vous dit, voilà, est-ce que ça s'est rapproché ou dispersé en moyenne sur chacune des décennies. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde ce premier indicateur, le taux d'intérêt réel long, on voit qu'effectivement, il y a eu une certaine convergence, c'est-à-dire que la dispersion dans la période de l'euro est bien moindre que ce qu'elle était par exemple dans les années 80, c'est-à-dire sous le SME, et un peu moindre que ce qu'elle était pendant la période de convergence. Néanmoins, quand on regarde à l'intérieur de la dernière colonne, on voit qu'il existe quand même des écarts persistants qui sont d'ampleur assez importante. Et vous voyez que, en fait, on voit ici déjà très clairement deux groupes de pays. Un premier groupe de pays dans lequel les taux d'intérêt réels ont été en permanence relativement élevés, autour de 2-2,5% par an. Et ce groupe de pays, c'est ce qu'on appelle les pays du cœur de la zone euro, dans lesquels donc, le taux d'intérêt nominal long n'était pas très élevé, mais le taux d'inflation était très bas. Et donc, pendant ces 10 années, on voit que dans ces pays, donc on a là-dedans l'Allemagne, la France, la Finlande, l'Autriche, etc., les Pays-Bas, et l'Italie d'ailleurs, dans une certaine mesure. Et dans ces pays-là, donc, on a en permanence un taux d'intérêt relativement élevé. Et puis, à l'inverse, dans le deuxième groupe de pays, on a des taux d'intérêt réels qui sont bas, voire très bas. Et dans ce deuxième groupe, eh ben, on trouve justement tous les pays qui ont des difficultés aujourd'hui, c'est-à-dire l'Irlande, la Grèce, l'Espagne et le Portugal notamment. Donc c'est quand même assez frappant déjà de ce point de vue-là. Pourquoi avait-il des taux d'intérêt bas? C'est quand même intéressant de le souligner. Ben parce qu'en fait, on a eu dans la période précédant la crise une disparition quasi complète des spreads de taux d'intérêt. C'est-à-dire que le taux d'intérêt nominal long est devenu pratiquement identique partout dans la zone euro. Il y a eu une convergence intempestive, on pourrait dire, alors même que les stocks de dette publique étaient différents et très différents. Les taux d'intérêt ont convergé de manière abusive, on pourrait dire, en termes nominaux. Le marché a fait preuve d'une absence totale de lucidité et de discrimination entre les dettes publiques. Et alors que l'inflation, elle, était beaucoup plus élevée dans ces pays-là que dans les autres. Et donc, en termes réels, les taux d'intérêt réels donc, étaient beaucoup plus bas et ont été durablement plus bas. Ce qui explique d'ailleurs en très grande partie pourquoi on observe dans ces pays-là des phénomènes de surendettement bien plus importants que dans les autres. Hein, parce que, évidemment, si le taux d'intérêt réel est très, très faible, alors, évidemment, l'incitation à l'endettement est beaucoup plus forte. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui, encore une fois, était visible, si on avait voulu le regarder, sur les années précédentes. Si vous regardez un pays comme la Grèce, c'est quand même intéressant, parce que vous voyez que dans les 10 années qui ont précédé le lancement de l'euro, la Grèce avait un taux d'intérêt réel moyen de 5,6%. Et tout d'un coup, elle se retrouve, une fois qu'elle est rentrée dans la zone euro, avec 0,5%. Comment voulez-vous que ça ne dérape pas? C'est, voilà, c'est pousse au crime, quand même. Hein, pousse au crime, évidemment. Et si vous regardez d'autres pays, l'Espagne, ça fait la même chose. Vous voyez, l'Espagne, 5, en moyenne, pendant une décennie, dans la décennie qui précède le lancement de l'euro, et on tombe à 1, un peu plus que 1, dans la période, dans les 10 premières années de l'euro. Là aussi, évidemment, un pousse au crime terrible. Bon. Si on a maintenant un autre indicateur d'hétérogénéité, dont on va reparler tout à l'heure, qui est le solde courant, là aussi, on voit que, alors cette fois, ce qui se passe, c'est que quand on regarde les quartiers, déjà, on voit que, en fait, ça diverge. Hein, ça diverge très fortement. Et ça, d'une certaine façon, c'est pas très surprenant. Parce qu'après tout, on pourrait même dire que c'est pour ça qu'on a créé l'euro. On a créé l'euro pour favoriser les financements entre pays. Et donc, finalement, libéraliser les mouvements de capitaux, faciliter le financement, etc., devrait permettre, en principe, aux pays à capacité de financement de pouvoir prêter plus facilement leur excédent de financement à ceux qui ont un besoin de financement, etc. Donc, le fait que les soldes de balance courante se polarisent plus fortement dans une zone monétaire que ça n'était le cas avant, finalement, n'est pas en soi une mauvaise nouvelle. Sauf que, quand on réfléchit à la soutenabilité des balances des paiements, là, on retrouve les hétérogénéités qui sont justement sur les mêmes pays. C'est-à-dire ces pays-là, bien entendu, comme leur taux d'intérêt réel est très bas, ces pays-là ont tendance à s'endetter de manière excessive, y compris à l'égard de leurs partenaires et du reste du monde. Et on retrouve donc avec des soldes courants fortement déficitaires, eh bien, les mêmes pays, c'est-à-dire l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Et dans une certaine mesure, cette fois l'Italie. Bon, dans une certaine mesure, enfin, moins, quand même. Donc là, c'est bon, la France, là, du coup, hein, de justesse, hein, mais on est juste un tout petit peu au-dessus de zéro, quand même. Bon. Et à l'inverse, donc, un certain nombre de pays, avec des excédents de balance courante tout à fait considérables, croissants, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas encore plus évidemment c'est-à-dire de la Finlande et des Pays-Bas, tout ça est en pourcentage du PIB évidemment, ce sont de très petits pays normalement évidemment. Alors, là aussi, si vous voulez, il faut quand même bien réaliser que ces chiffres-là, donc déficit de balance courante en pourcent du PIB, ce sont des moyennes sur 10 ans, c'est-à-dire que pendant 10 ans, systématiquement, l'Espagne a eu un déficit de balance courante de presque 6 points de PIB. Je vous rappelle quand même, à titre de comparaison, que lorsque les États-Unis, à peu près à la même période, 2006-2007, avaient un déficit de balance courante de 4% de leur PIB, tout le monde pensait que c'était la fin du monde et que ça allait s'effondrer quelque part. Hein. Donc là, pour l'Espagne, 6 points de PIB, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Je vous rappelle aussi que c'est l'époque où la Commission publiait chaque année son fameux classement des pays au vu des critères de la stratégie de Lisbonne, hein, le fameux Lisbonne Scoreboard, dans lequel chaque année, je crois que c'est KPMG qui faisait ça pour la Commission européenne, on sortait un tableau avec en haut les héros et en bas les vilains, les méchants, donc heroes and villains, et les héros c'était toujours l'Irlande, l'Espagne, et puis les vilains c'était toujours la France, l'Italie, etc. Bon, parce que ces pays-là, les premiers avaient toujours des taux de croissance formidables, etc. Puis on oubliait juste de regarder qu'il y avait derrière tout ça des déséquilibres absolument massifs. Ce qu'on appelle donc les déséquilibres globaux. Alors, ça ne veut pas dire, je reviendrai tout à l'heure quand on parlera de la gouvernance, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde ait des balances des paiements à zéro. Et ça, c'est évidemment la grande tentation, c'est de dire, bon, puisque ça, ces déséquilibres de balance courante sont des signes probables de déséquilibre, eh bien, mettons en place des règles qui empêchent qu'on ait des déséquilibres de balance courante ou qu'on ait des déséquilibres de balance courante trop forts. Ce serait trop beau pour être vrai, ça aussi, bien sûr. Donc, ça ne marche pas. Troisième et dernier indicateur de l'hétérogénéité, c'est évidemment la question des coûts salariaux unitaires. On en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup, évidemment. Et quand on regarde la même chose, ce sont les taux de croissance annuels moyens des coûts salariaux unitaires, donc toujours pareil, les moyennes décennales. Donc, vous voyez que la première chose qu'on constate, c'est que quand même, globalement, la zone euro a connu au cours de ces trois décennies un ralentissement très important de la progression de ces coûts salariaux unitaires. On passe, on s'est divisé par deux le rythme d'augmentation, ce qui est quand même pas si mal, et que la dispersion est quand même évidemment se réduit d'une décennie à l'autre, ça c'est vrai. Mais là aussi, quand on regarde à l'intérieur de la colonne, on se rend compte qu'il y a des écarts absolument énormes entre d'un côté l'Allemagne qui, avec les politiques menées dans les années 2000, est parvenu à peu près à stabiliser les coûts salariaux unitaires de main-d'œuvre, c'est-à-dire à faire en sorte que les augmentations de salaire soient exactement calibrées sur l'augmentation de la productivité. Alors même que on retrouve ici l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, et puis dans une certaine mesure l'Italie aussi, et le Portugal, on n'a pas les données, mais enfin, donc on retrouve à nouveau les mêmes pays qui sont, qui connaissent des évolutions très divergentes de leurs coûts salariaux. Vous voyez que la France est à peu près à la moyenne de la zone euro, hein. Comme toujours, nous sommes exactement au milieu. Hein. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien s'il faut nous mettre avec le sud ou avec le nord. Parce que comme géographiquement on est au milieu et qu'en termes d'évolution, on est aussi à peu près dans la moyenne, ni très vertueux, ni si vicieux que ça. Donc juste la tempérance française, on va dire. Donc, et là, on voit bien évidemment que tout ça fait système en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire, les différences de taux d'intérêt réel, les divergences de balance courante et les divergences de coûts salariaux, tout ça s'emboîte bien, si je puis dire, pour dessiner deux groupes de pays très distincts, les uns dans lesquels les évolutions salariales ont été, on va dire, excessives au regard des évolutions de productivité. Alors derrière tout ça, il y a aussi évidemment des tendances de spécialisation différentes. Hein. C'est-à-dire que, et c'est là aussi finalement quelque chose qu'on n'a pas bien regardé dans la période avant la crise, qui était que un certain nombre de pays, en fait, ont suivi des sentiers de spécialisation qui, en fait, n'étaient pas soutenables. Quand on voit, par exemple, la croissance espagnole, pendant les 10 années qui ont précédé la crise, on se rend compte que c'est une croissance qui est essentiellement liée au boom de l'immobilier, du secteur de la construction, que ce sont des secteurs dans lesquels la croissance de la productivité de la main-d'œuvre est extrêmement faible, voire nulle, etc., etc. Qu'il y a aussi donc un certain nombre de services qui ne sont pas non plus caractérisés par un dynamisme important de la productivité, etc., etc. Et donc et on retrouve aussi cette fameuse litanie sur la désindustrialisation de toutes les économies sauf les économies du cœur, c'est-à-dire l'Allemagne et dans une certaine mesure les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande. Donc tout ça dresse le tableau de quelque chose qui déjà avant la crise, pas forcément de manière pathologique, hein, je dirais, parce qu'après tout, le fait qu'il y ait des spécialisations différentes à l'intérieur d'une zone monétaire intégrée n'est pas en soi le signe que tout ceci n'est pas soutenable. Hein. Et aux États-Unis, si le Nevada se spécialise dans les casinos, tandis que la Californie se spécialise dans la haute technologie, après tout, ça n'est pas forcément un problème. Hein. Du moment que les gens qui ont de l'argent en Californie vont jouer leur argent dans les casinos de Las Vegas, ça marche pas. Et de la même façon, on pourrait imaginer des spécialisations. Donc tout le discours actuel sur la réindustrialisation de la France me paraît, de ce point de vue-là, un tout petit peu, on va dire, décalé par rapport à ce que nous enseigne l'analyse économique. Il faut bien croire, tout le monde nous dit aujourd'hui, c'était une illusion que de croire qu'on pouvait vivre seulement de services. Je ne crois pas, honnêtement. Toute l'histoire économique depuis le néolithique jusqu'à nos jours montre que les modifications dans les spécialisations nationales et régionales ne produisent pas nécessairement des choses insoutenables. La question, c'est évidemment de produire des choses que les autres veulent acheter pour pouvoir avoir les moyens d'acheter ce que nous souhaitons acheter aux autres. Mais que cette chose soit un produit industriel ou pas, à mon avis, n'importe peu ou pas du tout même. Je veux dire, c'est évidemment très embêtant pour les ouvriers sidérurgistes de Florange que la sidérurgie disparaisse en France, mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on doit à tout prix maintenir la sidérurgie en France? Je ne pense pas, de même que toutes sortes d'autres choses ont disparu du mix productif de la France et des autres économies, sans que l'on s'en porte nécessairement plus mal. Donc tout ça est quand même, à mon avis, et on va revenir sur cette histoire de soutenabilité tout à l'heure. Alors, donc ça c'est le premier point. Alors, très rapidement sur les choses qui ont été faites dans la crise. La première chose, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, la crise est on peut dire un choc commun. Donc face au choc commun, très naturellement, ce sont les instruments communs qu'on a mobilisés en premier. Donc je ne reviens pas là-dessus, la BCE a fait... Alors on peut dire qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Certains ont dit, mais finalement la BCE a très bien géré la crise. Oui, dans l'ensemble, c'est pas si faux, sauf que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, elle l'a géré, on va dire, avec beaucoup plus de retenue. C'est une bonne chose si on pense que l'injection de liquidité nourrit la crise suivante. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas parce que nous, on est sobre que l'on va pas ensuite subir à nouveau les conséquences de la crise suivante si elle provient des États-Unis. On a mis en place un fonds de stabilisation et on le consolide maintenant dans le mécanisme européen de stabilité. Comme vous le savez, il y a encore des discussions pour savoir si on doit mettre les deux, si on doit additionner les fonds des deux ou pas, etc. Donc, on ne revient pas là-dessus pour l'instant. La BCE, quant à elle, a fait des interventions d'urgence. Elle a notamment, dès l'été 87, agi en prêteur en dernier ressort. Et là, il y a une petite confusion dans la terminologie, me semble-t-il, ces derniers mois, qui s'est installée. C'est-à-dire, quand on parle aujourd'hui du rôle de prêteur en dernier ressort de la BCE, on fait référence à sa capacité de refinancer les dettes publiques. Or, traditionnellement, la fonction de prêteur en dernier ressort ne concerne absolument pas cet aspect des choses. Le rôle de prêteur en dernier ressort, défini par Benjamin au XIXe siècle et repris par Goodhart, etc., c'est en fait, évidemment, la capacité qu'a la Banque centrale et le rôle de la Banque centrale d'injecter de la liquidité dans le secteur bancaire, donc dans les banques commerciales, et pas du tout de prêter aux États. Donc là, il y a une très grande confusion en France, notamment, dans le vocabulaire qu'on utilise. Donc, son rôle de prêteur en dernier ressort, elle l'a joué. Ça permet de faire face aux problèmes d'illiquidité, on l'a déjà dit. C'est ce que la Banque centrale a fait à nouveau récemment en prêtant à nouveau aux banques commerciales de reprise, environ 1 milliard de dollars, comme vous le savez. Le problème, c'est que les instruments qu'on met en place hors banque centrale, c'est-à-dire notamment le mécanisme européen de stabilité et plus encore le fonds qui précédait, pour l'instant, étaient plutôt soumis à l'approbation préalable des parlements nationaux. Ça risque d'être encore le cas pour la suite. Notamment pour l'Allemagne, parce que, quand on met en place un mécanisme comme celui-là, ça met en jeu la signature des pays qui sont créanciers de ce mécanisme-là, et donc, évidemment, ça accroît les dettes publiques des États membres, et donc, évidemment, il est naturel que ce soit le Parlement qui s'en occupe. Mais je reviendrai en conclusion là-dessus, il me semble que là, il y a un vrai problème dans les institutions européennes. Alors, si on regarde ce qu'a fait la BCE toujours, on s'aperçoit que, comme la Banque centrale américaine, mais dans une bien moindre mesure, elle a aussi procédé à des achats directs de titres publics. Elle l'a fait de manière ponctuelle pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Elle l'a fait aussi de manière indirecte en assouplissant les règles d'éligibilité. Je vous rappelle que pour pouvoir accéder au crédit de la Banque centrale, les banques commerciales doivent mettre en dépôt des titres en pension et que donc la liste de ces titres est établie à l'avance par la Banque centrale. Or, la Banque centrale, c'est, pendant la crise, a en fait accepté en dépôt des titres dont la qualité de signature était bien moindre. Et donc elle a beaucoup assoupli, et notamment donc elle a continué à accepter les titres des dettes publiques, dites des dettes souveraines, même des pays dont le crédit paraissait déjà assez entamé, et qui notamment avaient perdu le bénéfice de leur note triple A. J'en ai tout à l'heure sur les notes et sur le CDS, brièvement. Bon, mais dans le même temps, elle a fait beaucoup moins qu'aux États-Unis. Hein, donc, ce qu'on appelle aux États-Unis le quantitative easing, c'est-à-dire le fait pour la Banque centrale de racheter massivement des titres de dette publique, ce qu'a fait aussi la Banque d'Angleterre. La Banque centrale américaine a à peu près doublé la taille de son bilan pendant la crise en rachetant donc, notamment ces titres de dette publique. Aujourd'hui, plus de 20% de la dette publique américaine fédérale est détenue par la réserve fédérale américaine, alors qu'en Europe, c'est environ 3%. Donc vous voyez que les ordres de grandeur ne sont tout simplement pas les mêmes. Et d'autre part, la BCE, elle, a essayé à chaque fois de stériliser. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle achetait de la dette publique, elle a en fait recédé des titres de dette publique, de dette privée, pardon, de manière à ce que, globalement, la taille de son bilan n'augmente pas. Et donc, on peu en tout cas. Et donc, on voit que la manière de procéder est différente. Et puis récemment, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a fait des prêts tout à fait conséquents aux banques commerciales, des prêts à 3 ans, à 1% de taux d'intérêt. Les deux opérations qui ont été menées, l'une en décembre, que j'avais appelé le Noël des banquiers, parce que c'était le 23, juste avant le petit papa Noël, c'était gentil quand même, ça faisait 480 milliards déjà à l'époque, et puis après, c'était la chandeleur des banquiers ou le carnaval des banquiers, je ne sais pas, c'est en février, et là, c'est pas encore plus, 530 milliards, toujours à des conditions très avantageuses. Alors, d'une certaine façon, ça traduit quand même déjà une réalité qui est que on voit bien que le problème, à nouveau, toujours, c'est le problème de liquidité du secteur bancaire. C'est-à-dire, il y a ce problème de liquidité du secteur bancaire européen n'est toujours pas réglé. Alors on dit, en prétend, la BCE fait ça parce qu'elle ne peut pas, c'est ça qui l'empêche d'acquérir de la dette publique, et donc elle encourage indirectement les acquisitions de dette publique par les banques commerciales en leur prêtant de l'argent. C'est peut-être vrai, mais enfin le fait est que les banques commerciales, d'une part, ne sont pas obligées d'acheter de la dette publique avec, elles ne sont pas non plus obligées de prêter aux agents non bancaires, notamment aux entreprises, et on voit mal d'ailleurs pourquoi elles prêteraient aux entreprises, alors même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises cherchent à se désendetter, et qu'on sait aussi, les données le montrent, que toutes les grandes entreprises aujourd'hui sont au contraire un problème d'excédent de cash, et ça fait quoi faire de leur cash, parce qu'elles n'investissent plus. Donc pourquoi emprunteraient-elles alors qu'au contraire, elles ont déjà des excès de trésorerie dont elles ne savent plus quoi faire. Donc tout ça montre que pour l'instant, en tout cas, ces opérations-là sont là surtout pour continuer ou pour maintenir une liquidité des secteurs bancaires qui est encore très très fragile, et donc ça veut bien dire que le grand problème encore aujourd'hui en Europe, c'est la fragilité des banques et l'impossibilité où se trouvent les banques de se faire confiance les unes les autres et de se prêter les unes les autres sur un marché monétaire normal, comme ça se passe en temps normal lorsque les banques centrales ne sont pas obligées d'injecter des montants aussi énormes à des échéances aussi longues, puisque c'est quand même 3 ans, je veux dire, c'est quand même pas rien. Donc on sent derrière tout ça, même si on nous dit que c'est bien, que tout est normal, que tout va bien, que c'est quand même le symptôme que quelque chose ne va pas. Et le fait que plus puissant banque y soit allé, c'est évidemment le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Noël, donc on aurait tort de s'en priver, surtout qu'en plus la plupart des banques replacent ensuite auprès de la BCE leurs excédents de trésorerie à un taux un petit peu plus élevé. Donc non, un petit peu plus bas quand même. C'est quand même. Donc, ça, quand même pas exagéré. Parce que là, ce serait carrément une martingale. sensationnel. Bon, non, un petit peu plus bas. Donc, tout ça ne résout pas évidemment les problèmes de finances publiques, c'est juste quelque chose qui résout les problèmes pour le mieux, au mieux des liquidités. Alors, si on regarde de manière un peu plus large le problème des banques, on voit qu'on n'a toujours pas réussi en Europe à se mettre d'accord ni sur une vraie réforme des banques. J'ai rappelé tout à l'heure qu'aux États-Unis, à l'été 2010, on a quand même adopté la réglementation Dodd-Frank. Qui modifie quand même très sensiblement un certain nombre de choses, même si elle n'est certainement pas parfaite, mais elle va quand même dans le sens d'une restructuration du secteur bancaire, aussi dans le sens d'une meilleure information des consommateurs, d'une plus grande transparence, etc. On a, dans le cadre de la réglementation Dodd-Frank notamment, institué l'obligation pour les institutions financières d'organiser des marchés, des marchettes, des market makers, etc., pour tous les instruments dérivés et notamment les fameux CDS. Donc il y a maintenant aux États-Unis des marchés organisés de produits dérivés qui peuvent donc être d'une certaine manière réglementés et contrôlés, alors qu'en Europe, c'est toujours pas le cas. En Grande-Bretagne, on est en train de discuter une grande réforme bancaire qui, comme vous le savez, s'appuie sur un rapport, le rapport Vickers, qui préconise la séparation complète entre les activités de dépôt et les activités de banque d'investissement, donc un retour à ce qu'on appelait aux États-Unis Glass-Steagall, qui avait été institué dans les années 30 à la suite de la Grande Dépression, et aux États-Unis, on n'est pas loin de ça aussi. Et en Europe continentale, dans la zone euro, rien pour l'instant. C'est-à-dire, tout le monde dit ah ben non, il ne faut pas, on a des banques universelles, elles sont bonnes, elles sont solides, elles sont performantes, c'est les meilleures du monde, c'est les plus grosses, c'est ceci, c'est cela. Et bon, est-ce que c'est si sûr quand même? Voilà. Donc, de la même façon, il y a eu tout un débat sur la taxation des banques, finalement, ça fait chut pour reprendre l'expression de l'ancien président de la République. Et donc on n'a pas véritablement avancé sur ce sujet de la taxation des banques. Chaque pays fait sa petite taxation des banques dans son coin, mais selon des modalités différentes, généralement très petites. De la même façon, on ne se met pas d'accord sur les recettes, etc. etc. Il n'y a pas tellement d'avancées substantielles sur la supervision européenne. Bien sûr, on a mis en place une institution de coordination des superviseurs nationaux, mais on n'a pas beaucoup avancé là-dessus. On n'a pas non plus avancé sur la mise en place de marchés organisés pour les CDS. On a fait des trucs sur les CDS. Vous savez, sur les CDS, les fameux credit default swaps, qui sont des instruments de couverture des risques de défaut des emprunteurs. Et aux États-Unis, on avait vu que c'était quand même un des problèmes, un des canaux qu'on appelle systémiques de propagation des crises. Et donc, puisque vous vous souvenez que deux jours après la chute de Lehman Brothers, c'est l'assureur américain AIG qui, en fait, a été renfloué parce que, justement, les CDS qui avaient été émis par cet assureur étaient justement... devait être remboursé. Et donc aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, on a mis en place des marchés organisés pour les produits dérivés. On a maintenant des données sur les prix, sur les volumes, les transactions, etc. Ce ne veut pas dire évidemment que tout est parfait, mais en tout cas, il y a plus de transparence. Et en Europe, on n'a rien fait de tout ça. La seule chose qu'on a faite en Europe, alors on nous dit que l'Union européenne a bien travaillé, on a bien pensé et tout. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a interdit les couverts de CDS, on a interdit la détention de CDS qu'on appelle nus, c'est-à-dire les CDS qui ne correspondent pas à la détention d'un titre de dette correspondant, etc. Mais tout ça ne sert à rien. Parce que d'abord, on est incapable de s'assurer que ces choses-là sont bien respectées, et puis parce que du coup, il n'y a toujours pas de transparence sur le marché. Donc ça, c'est... On a presque rien fait. Alors, du côté maintenant des politiques budgétaires, pour avancer un peu, bon, on a essayé de mettre en œuvre, comme je vous l'ai dit, au début de la crise, des relances concertées, et ensuite, très vite, on est passé par on est passé vers des politiques de rigueur, et on voit, ben, c'est ce qu'on voit évidemment notamment cette année, que évidemment si tous les pays européens mettent en place des politiques d'austérité en même temps, eh bien les effets déflationnistes et contractionnistes se manifestent pleinement dans tout. Et là-dessus, je voulais juste citer quand même une étude, vous pouvez aller voir sur le site, le blog de l'OFCE, j'ai repris, mais c'est pas une étude de chez nous, c'est juste un petit truc qui renvoie à une étude publiée dans l'American Economic Journal Macroeconomics, qui est en fait une étude qui est... Il y a deux études qui sont intéressantes de ce point de vue-là. Il y a d'une part une étude publiée par le FMI à l'automne dernier dans son bulletin World Economic Outlook. Dans cette étude, dans le chapitre 3, le FMI regarde les expériences de ce qu'on appelle consolidation budgétaire, c'est-à-dire des expériences dans lesquelles les pays ont cherché à réduire leur déficit budgétaire. Et contrairement à ce que font la plupart des études récentes, vous savez que la plupart des études récentes mettent l'accent sur quelques expériences nationales, on appelle ça les effets non-keynésiens ou anti-keynésiens des politiques de consolidation budgétaire, et on vous cite toujours les mêmes, hein, puisqu'il n'y en a pas tellement, il n'y en a que 3 ou 4, hein, c'est toujours les mêmes. Donc c'est le Canada, le Danemark, l'Irlande et la Suède. Regardez, c'est là. Je ne citerai personne, mais encore certains journalistes économiques qui, chaque fois qu'ils font un débat avec un candidat à la présidentielle, ressortent exactement toujours le même truc, en disant « la seule façon de réduire le déficit budgétaire, c'est de couper les dépenses. La preuve, ces pays-là l'ont fait. » Bon, et déjà, c'est une preuve, bon, en soi. Et puis ensuite, c'est seulement un tout petit nombre d'expériences, des expériences en fait qui ont en commun deux ou trois caractéristiques qui méritent d'être soulignées, c'est que ce sont de petits pays, et n'en déplaise aux gens qui s'attachent à la géographie, le Canada est un petit pays, très petit d'ailleurs, et la Finlande aussi, parce qu'évidemment ce sont de petites économies ouvertes, selon les critères habituels de la définition macroéconomique de ce qu'est une petite économie ouverte. Donc des petits pays, des pays qui ont leur propre monnaie et qui donc ont généralement combiné les politiques de consolidation budgétaire avec de la dépréciation monétaire. Et en outre, ce sont des pays qui ont tous mené ces politiques-là dans des contextes où tous les autres faisaient le contraire. Et donc, il y avait une expansion autour d'eux qui, grâce à la dépréciation monétaire, compensait en fait la contraction de la demande intérieure. Si on regarde maintenant l'étude du FMI qui est très intéressante de ce point de vue-là, eux ils prennent sur une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, toutes les expériences qui ont été faites dans tous les pays de consolidation budgétaire et ils trouvent ce que tous les bons keynésiens s'attendaient à ce qu'on trouve, c'est-à-dire les effets keynésiens, c'est-à-dire quand on fait une consolidation budgétaire, en moyenne, ça a des effets récessifs, évidemment. C'est pas la peine de faire tout ça pour ça, mais dire bah si, quand même, il fallait quand même le rappeler. Et on trouve donc ce qu'on appelle habituellement des multiplicateurs keynésiens qui sont positifs et même souvent proches ou supérieurs à 1. Voyez-vous. Et c'est le FMI qui nous le dit. Hein, c'est pas non plus un repère gauchiste là-bas. Et bien oui, ils disent ça. Et puis récemment, donc, l'autre étude que je voulais signaler, c'est paru dans l'American Economic Journal Macroeconomics, une étude signée par 17 économistes qui travaillent tous dans des banques centrales, la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque Fédérale Américaine ou le FMI. Et ces 17 économistes qui ont comparé la valeur des multiplicateurs budgétaires dans les modèles DSGE, c'est-à-dire les fameux modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général qu'utilisent maintenant les banques centrales pour mener leur politique monétaire, ces DSGE qui pourtant ne sont pas suspects d'être des modèles, on va dire, archaïques, au contraire, ils ont toutes les caractéristiques de la modernité, ils sont dynamiques, ils sont stochastiques, des anticipations rationnelles et tout ce que vous voulez, mais ils ont généralement des petites caractéristiques néo-keynésiens, on va dire, quelques petites rigidités aussi ou là. Et bien dans ces modèles-là, les multiplicateurs keynésiens sont positifs, là aussi, toujours. Et ce qu'ajoute cette étude récente, c'est que dans le cas de l'Europe, le multiplicateur combiné, c'est-à-dire quand on prend l'ensemble de la zone euro, et pas seulement chaque pays isolément, est supérieur à 1. C'est-à-dire que si tous les pays de la zone euro font de la contraction en même temps, de la contraction budgétaire en même temps, eh bien la contraction d'activité va être supérieure à l'impulsion budgétaire. Et ça, c'est fâcheux, parce que la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que si le multiplicateur keynésien est supérieur à 1, ça veut dire que quand on essaie de réduire le déficit budgétaire comme ça, eh bien il se réduit pas. C'est ça qui est bête. Et c'est ce qu'on a vu en France, là, notamment l'année dernière, où tous les deux mois, on a refait un plan pour dire ben non, on ne tient pas l'objectif, donc il faut durcir. Parce qu'on ne tient pas l'objectif. Et à chaque fois, ben, et si on continue comme ça, évidemment, on a vu à nouveau l'Espagne, hein, vous avez vu il y a quelques jours, l'Espagne, pourtant Dieu sait que le gouvernement espagnol n'est pas non plus soupçonnable de keynésianisme, le gouvernement espagnol dit à la Commission, on ne va pas pouvoir tenir notre objectif cette année. La Commission dit, si, il va falloir. Donc serrer encore un peu plus les boulons. Et pour la Grèce, pareil. Hein. Et donc on voit bien que si tout le monde fait ça en même temps, ben, ça ne marche pas. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Je voulais juste rappeler en vitesse, mais que tout le monde ait bien ça à prendre à l'esprit, ce qui se passe avec les déficits budgétaires, on le voit bien, et les dettes publiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bien sûr, les déficits budgétaires étaient, dans beaucoup de pays avant la crise, déjà relativement élevés. On voit bien que le pacte de stabilité, finalement, n'était pas respecté dans la plupart des pays, hein, et celui-ci, alors que c'était à moins 3, hein, en principe, la limite. Mais, la seule période où on l'a respecté, c'était le début, justement. Et ça, c'est bien là le problème. Hein. Je vais revenir tout à l'heure, sur la gouvernance. On l'a respecté très difficilement au moment où on est rentré dans la zone euro. Hein. C'est-à-dire tout le monde est rentré avec un déficit budgétaire de 3%, qui était la condition. Hein. Et du coup, on n'avait aucune marge de manœuvre. Et donc, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que dès qu'il y a eu un ralentissement, ça s'est produit dès 2002, eh bien, tout le monde a plongé. Et c'est pour ça que la France et l'Allemagne ont violé le pacte dès 2003, parce qu'évidemment, on n'avait aucune marge de manœuvre, puisqu'on était déjà au plafond dans la période où on est rentré. Bon. Mais on voit que dans la crise, évidemment, y compris des pays comme l'Espagne, qui avaient des excédents budgétaires assez considérables, se sont trouvés avec des déficits énormes. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour vous montrer sur ce tableau que quand on regarde la nature des politiques budgétaires menées pendant la crise et en 2009 et 2010, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'on voit en fait, c'est que les structures sont très très différentes. Et vous voyez, si vous prenez cette colonne par exemple de l'impulsion budgétaire, ce qu'on appelle les mesures discrétionnaires de politique budgétaire, vous voyez que déjà l'ordre de grandeur est très différent. Vous avez des pays comme le Royaume-Uni qui font de la relance assez massive, presque 2 points de PIB de mesures discrétionnaires, presque tout sur les ménages. Le Royaume-Uni a fait de la relance en baissant la TVA. En gros, ni de 600 millions à mon avis, mais bon. Ou l'Autriche, vous voyez, 1,5, presque tout sur les ménages aussi. Alors que par exemple, la France, 1,6, presque tout sur les entreprises, assez peu sur les ménages, etc. etc. L'Allemagne, 1,7, moitié-moitié, etc. On voit qu'il y a des très grandes différences dans la structure des plans de relance. Et quand on regarde l'année suivante, on s'aperçoit que là, il commence à y avoir des divergences très très fortes dans les orientations. C'est-à-dire que, par exemple, en 2010, l'Allemagne a une politique budgétaire très expansionniste, plus qu'en 2009 encore, alors que la France est déjà en train de freiner un tout petit peu. Et certains pays freinent carrément beaucoup. Vous voyez que la Grèce est déjà à zéro et elle est déjà en train de mettre en place un frein. C'est le cas encore plus net de l'Irlande. Si vous regardez, alors oui, l'Irlande, là, voilà. Donc ici, ils sont en train de mettre, ils ont déjà moins 5,4 en mesure de consolidation dès 2009. C'est-à-dire qu'ils font du free riding. Hein, petite économie ouverte, ils freinent pendant que tout le monde accélère. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir le beurre et l'argent du beurre, en quelque sorte. C'est-à-dire, à la fois, ils réduisent leur déficit budgétaire et puis ils profitent de l'expansion des autres. Bon. Donc, on a un vrai problème. Alors, ça, je voudrais juste conclure sur les questions de gouvernance, parce qu'il faut quand même qu'on garde 2-3 minutes pour les questions. Bon. la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour essayer de se prémunir contre, d'abord, sortir du problème de l'endettement public, et ensuite pour se prémunir situations de ce type à l'avenir. Évidemment, alors, pour sortir du problème des dettes publiques excessives, bon, d'abord, il faut rappeler que ces dettes publiques excessives, elles sont dans une très large mesure le fait de la socialisation, en quelque sorte, des dettes privées que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois dans certains pays comme l'Irlande ou même l'Allemagne, d'ailleurs, la dette publique résulte du fait qu'on a renfloué des banques ou des institutions financières, et puis ça résulte aussi du fait qu'on a mené des politiques de relance budgétaire pour contrer les effets déflationnistes de la crise. Donc tout ça est parfaitement raisonnable d'une certaine façon. Et là, aujourd'hui, on est un peu dans la situation où se trouvait l'économie américaine en 1937, quand tout le monde disait bah, « ça y est, maintenant la dette publique est excessive, il faut absolument lutter contre la dette publique ». Et comme tout le monde fait ça en même temps, et comme vous savez, les Allemands sont les plus fervents partisans d'un désendettement public, eh bien, on sait que si les multiplicateurs keynésiens sont supérieurs à 1, on va y arriver, en faisant comme ça déjà, et que donc on réduira beaucoup plus sûrement la dette en ayant les politiques de croissance. Et historiquement, c'est d'ailleurs qu'il n'y a que deux manières vraiment efficaces de réduire les ratios d'endettement public, soit l'inflation, soit la croissance, soit un mélange des deux. Si vous regardez ce qui s'est passé dans toute l'histoire, sauf, il n'y a même pas d'exception, c'est toujours un mélange des deux qu'on a utilisé pour réduire l'endettement. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut faire de l'inflation aujourd'hui? Est-ce que l'inflation aurait aujourd'hui les mêmes effets? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'aujourd'hui les marchés financiers sont extrêmement réactifs aux anticipations d'inflation et donc on peut se demander si le recours à l'inflation est encore possible aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui tromper les créanciers? Est-ce qu'on pourrait faire ce que Keynes appelait l'euthanasie des rentiers? Ben, c'est pas sûr, parce qu'ils sont vachement réactifs aujourd'hui, les rentiers, beaucoup plus qu'avant. Donc moi, je ne suis pas totalement convaincu par ça. En revanche, la croissance, oui, on peut. Alors après, la question, c'est comment on fait ça? Bon, ça, c'est un peu compliqué, évidemment, mais je crois qu'il y a des moyens. Tout le monde les connaît quand même plus ou moins. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, pour relancer la croissance, on pourrait, par exemple, lancer des grands programmes de modernisation des réseaux d'énergie, des réseaux de transport, etc., etc., de façon à favoriser la transition vers une économie bas carbone. Tout le monde sait que c'est ça que l'Europe devrait faire. C'est même d'ailleurs ce que l'Europe elle-même s'est donné comme objectif dans sa stratégie 2020, mais en même temps, personne ne peut le faire. Donc, les recettes sont quand même assez faciles à trouver. Et on sait que si on faisait ça, alors le problème, évidemment, c'est ce que certains pointent, c'est que si on veut faire ça, il faut avoir recours à davantage d'endettement. Et donc, la question, c'est de dire, est-ce que c'est pas une fuite en avant? C'est-à-dire, pour se sortir de la dette, il faut s'endetter plus. C'est comme pour se sortir des problèmes monétaires, il faut créer plus de monnaie. C'est la même chose. C'est-à-dire, il faut pas. Évidemment, il y a un exemple qui est quand même assez intéressant, certains ont beaucoup critiqué, mais que personnellement j'ai beaucoup soutenu. C'est l'exemple du grand emprunt. Au moment où tout le monde commençait à s'inquiéter de l'augmentation de l'endettement public français, le gouvernement français décide de lancer un grand emprunt. Et tu te dis, mais c'est complètement fou. C'est pas si fou que ça, parce que justement, le problème, et on revient justement à la question du surendettement tout à l'heure, le problème pour les agents privés comme pour les agents publics, c'est le problème de soutenabilité de la dette. Et la soutenabilité de la dette, on le sait, elle dépend des perspectives futures de possibilités d'assurer le service de la dette. C'est vrai pour les agents privés comme pour les agents publics. Et donc, le problème de soutenabilité de la dette, on ne peut pas le résoudre par des politiques qui réduisent le taux de croissance de l'économie. Et on ne peut pas le résoudre par des politiques qui abaissent le taux de croissance potentiel, notamment, parce que sinon, on se retrouve dans le problème de la boule de neige, de l'effet boule de neige. C'est-à-dire que si le taux de croissance devient inférieur au taux d'intérêt sur la dette, eh bien, l'endettement public, le ratio d'endettement public croît de lui-même sous l'effet simplement des charges d'intérêt sur la dette. Et donc, la seule manière d'assurer une dette publique soutenable, c'est d'avoir d'avoir ce qu'on appelle l'écart critique, c'est-à-dire l'écart entre le taux d'intérêt sur la dette et le taux de croissance de l'économie, qui soit négatif, non, si je mets dans ce sens-là. Et pour ça, soit on arrive à faire baisser les taux d'intérêt, on voit que l'Allemagne, dans certaines mesures, il marche bien, et comme vous le savez, le ratio d'endettement public de l'Allemagne est aujourd'hui au même niveau à peu près que la France, hein, à quelques points près, c'est ça ne traite plus, aussi, et en Allemagne, personne n'a l'air de considérer que la dette publique allemande est insoutenable. En France, alors on dirait évidemment la dynamique n'est pas la même. Et la dynamique n'est pas la même, notamment parce que les taux d'intérêt en Allemagne sont beaucoup plus bas et que les taux de croissance ces deux ou trois dernières années ont été plus élevés. Mais sinon, jusqu'à il y a deux ans, la dynamique de la dette était aussi explosive en Allemagne qu'en France, pas plus ou pas moins. Donc, ce qui fait la dynamique de la dette, en fait, c'est justement cet écart entre les deux. Alors, si on ne peut pas agir sur les taux d'intérêt, on sait bien que dans le cas de la France, on a eu beau essayer de défendre jusqu'au bout notre triple A, finalement, on l'a quand même lâché. Si on ne peut pas agir sur les... On pourrait agir sur les taux d'intérêt, peut-être. En Belgique, ils ont fait un truc intéressant, qui est de placer directement de la dette publique dans le public, hein, pour éviter de dépendre des marchés financiers. On fait pour une petite somme, mais c'est symbolique. Bon. Si on ne peut pas agir vraiment sur le taux d'intérêt, il faut agir sur le taux de croissance. Et là, juste un petit mot pour terminer, il y a comme une question, si on a le temps, je ne sais pas. Oui. Un petit mot. Dans les nouvelles règles qu'on met en place, il y a deux choses qui sont inquiétantes, au moins, sinon plus, que deux, au moins deux. La première, c'est que on veut renforcer le pacte de stabilité, et c'est normal, parce qu'après tout, puisqu'on veut plus coordonner, il faut aussi qu'on ait des règles plus strictes. Hein. D'une certaine façon, ce n'est pas normal. Mais pour renforcer le pacte, on a décidé deux choses qui sont très dangereuses. La première, c'est qu'on assoit le pilotage des politiques budgétaires nationales sur la notion de déficit structurel. J'ai dit tout à l'heure que la notion de déficit structurel, enfin, je dis maintenant, que la notion de déficit structurel elle-même s'appuie sur celle de croissance potentielle. Et que la croissance potentielle, on ne sait pas vraiment la mesurer. Et donc, du coup, on introduit dans les textes européens quelque chose qui repose quand même sur des bases pas très solides et empiriquement pas solides du tout. Et ça, c'est quand même un problème. La deuxième chose, c'est qu'on veut inscrire dans la constitution des différents pays de la zone euro l'obligation, la fameuse règle d'or, mais qui n'est pas une règle d'or, hein, puisque je vous rappelle que la vraie règle d'or, c'est la règle de le roi Beaulieu, la règle d'or des finances publiques, qui consiste à dire on ne finance par l'emprunt que l'investissement public et pas les dépenses courantes. C'est la règle qui s'applique d'ailleurs aux collectivités locales en France. Ça, c'est la règle d'or des finances publiques. Le reste, on peut appeler ça autrement, mais pas une règle d'or. Cette règle d'or-là, elle est très dangereuse, elle est absurde, et soit elle est dangereuse, soit elle sert à rien. Parce que soit on l'inscrit pour la violer, ce qui est probable, et à ce moment-là, c'est pas la peine de s'énerver, soit on l'inscrit pour de bon, et alors là, c'est dangereux. Et je vous signale quand même que la semaine dernière, tout un groupe d'économistes éminents américains, dont plusieurs prix Nobel d'économie, Solow, Harrow et quelques autres, ont écrit à Barack Obama pour le conjurer de ne surtout pas mettre de règles d'équilibre budgétaire dans la Constitution américaine parce que c'est très dangereux. Donc au moment où les Américains, comme d'habitude, font preuve de bon sens économique, nous en Europe, on est en train de se précipiter une fois de plus dans une impasse. Voilà, comme d'habitude. Bon, et la dernière chose donc, c'est juste sur la question de la souveraineté. J'arrête là, on parle d'être souverain, etc. Bien, on n'est plus souverain. Il faut quand même être tout à fait clair là-dessus. On n'est plus souverain, donc il faut arrêter de parler de dette souveraine. La meilleure preuve qu'on n'est plus souverain, c'est qu'il y a maintenant des CDS sur les dettes soi-disant souveraines. Sinon, il n'y en aurait pas besoin, si on était souverain. Et d'ailleurs, vous savez que les CDS sur les dettes en Europe, sur les dettes publiques, c'est très récent. Il y a 10 ans, il n'y avait pas. C'est apparu quand on a commencé à se dire, eh bien, les gouvernements européens ne sont plus vraiment souverains. Puisqu'ils sont dans une zone monétaire, il n'y a plus une banque centrale qui peut monétiser la dette, etc., etc. Donc la souveraineté n'est plus là, donc c'est plus la dette souveraine. Et donc ça, c'est quand même quelque chose à méditer. Et pour conclure, donc, pour rendre un nouvel hommage à Tom Sargent, que j'estime beaucoup, Sargent, vous savez, il a eu le prix Nobel l'année dernière, sa conférence Nobel, que je vous conseille d'aller voir sur son site personnel, il y a le PowerPoint, en tout cas pour l'instant, il sera publié, j'imagine, bientôt. Dans sa conférence Nobel, Sargent compare la situation de la zone euro aujourd'hui avec la situation des États américains en 1790. Et c'est très intéressant ce qu'il explique. Il montre ce qui s'est passé aux États-Unis, comment on a créé la fédération américaine. Je me rappelle quand 1776 c'est la guerre d'indépendance, 1788 c'est la constitution américaine, 1790 c'est le moment où le gouvernement fédéral américain décide de mettre en commun les dettes publiques des États fédérés. Tous les États fédérés à l'époque sont très endettés, ils sont à peu près dans la même situation que la Grèce aujourd'hui. Ils n'arrivent plus à payer leurs dettes, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Hamilton, qui est un homme visionnaire, dit, voilà, on va mettre tout ça en commun, on va créer un budget fédéral, et le gouvernement fédéral, en échange de cette reprise des dettes, va obtenir des États la possibilité, la compétence de taxation illimitée. C'est-à-dire, Hamilton dit, j'ai besoin qu'on me donne le pouvoir de lever l'impôt, pour pouvoir assurer le service de cette dette. Et Hamilton ajoute, j'ai besoin de ça parce qu'il faut qu'on la paye, cette dette. Et il faut qu'on la paye parce que notre réputation est importante. On est un petit pays, tout jeune, on n'a aucune réputation, on a intérêt à bien se comporter parce qu'il se pourrait qu'on ait besoin d'emprunter un jour dans l'avenir et que donc notre réputation est importante. Il a eu raison, parce qu'il y a eu au moins quelques années plus tard une occasion qui s'est présentée où un pays ami leur a proposé de leur vendre à peu près la moitié du territoire américain pour une bouchée de pain. Et donc il fallait qu'ils empruntent là, et ça leur a permis d'aller jusqu'au Pacifique du coup. C'était un bon investissement. Et puis depuis, ils ont souvent emprunté à nouveau et leur réputation, ma foi, n'est pas si mauvaise. Donc voilà, c'est ça. Ce n'est pas forcément une leçon, mais disons que ça montre une voie possible vers une sortie. Voilà. Je sais pas si on a le temps de prendre une minute de questions. 5 minutes de questions. Voilà. S'il n'y en a pas, il y en a encore. Un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans le nouveau pacte, on prévoit aussi de maintenir cette fameuse règle des 60% pour la dette, 60% du PIB, et on a ajouté un truc complètement fou aussi, qui est que tous les pays dont la dette publique, le ratio d'endettement est supérieur à 60% du PIB, vont devoir chaque année réduire leur endettement public d'un certain pourcentage de l'écart entre leur niveau et les 60%. Donc plus un pays comme l'Italie ou la Grèce va devoir pendant des années faire un effort encore plus important que les autres pour ramener son ratio d'endettement à 60% du PIB, ce qui est vraiment alors là du dogmatisme pur et simple, hein, puisque comme vous le savez, 60% c'est absolument arbitraire, rien nulle part ne dit que 60%, c'est un niveau d'endettement public optimal, je ne sais pas quoi. Ça, c'est assez fou. Oui, il y a le temps.
Je suis bien content d'avoir entendu ça. Peut-être qu'on avait entendu ça en cours, on aurait pu avoir des critiques assez virulentes, donc je suis très Banque Centrale Européenne et sur le fait que pour ne pas faire grandir son bilan, certes, elle prend des titres de dette européenne, mais cède par ailleurs des titres de dette privée. Est-ce que c'est une volonté délibérée, une règle qui lui a été assignée, c'est le respect de ses engagements et son mandat ?
Non. C'est une règle dont elle se dote elle-même, c'est-à-dire que ça participe en fait de la manière dont elle interprète son mandat. J'ai dit tout à l'heure que son mandat avait un objectif prioritaire qui était la stabilité monétaire. Elle interprète ce mandat comme signifiant qu'elle ne doit pas augmenter inconsidérément la base monétaire, parce qu'elle pense que ça va nourrir l'inflation. Et donc, lorsqu'elle fait du financement monétaire de déficit public, elle compense en réduisant les crédits qu'elle accorde aux agents privés, quoi. En gros, c'est pas... La BCE, évidemment, c'est une instance fédérale compliquée. Hein. Comme vous le savez, les équilibres de pouvoir au sein de la BCE sont assez subtils et assez compliqués. Les gardiens de l'orthodoxie sont les Allemands, aussi bien la Bundesbank que le chief économiste de la BCE. Et vous savez qu'il y a eu toute une lutte de pouvoir il y a quelques mois lorsque on a remplacé Trichet par Draghi et qu'il a fallu que Bini Smaghi, qui était l'italien de service, s'en aille pour laisser la place à un Français, et que, etc. etc. Les Français voulaient obtenir le poste de chief économiste. Parce qu'évidemment, c'est lui, en fait, qui prépare les décisions du Conseil de la BCE, et donc il a un pouvoir non négligeable. Et jusque-là, le chief économiste a toujours été un Allemand. Donc, et depuis ce changement de composition du Conseil, là, en novembre dernier, c'est un Belge, dont il y avait une interview dans Le Monde de ce week-end d'ailleurs, et Le Monde nous rappelant d'ailleurs que c'est un Belge, mais né en Allemagne. Donc, ça va, on est sauvé de justesse, mais ça va. Ça doit être pour ça que les Allemands ont accepté finalement que ce soit pas un Allemand. Bon, mais c'est vrai que vous vous souvenez aussi d'ailleurs que le président de la Bundesbank a démissionné à la suite du désaccord qu'il avait avec les instances de la BCE, notamment avec Trichet. Juste la petite vanne en passant, c'est ce que je m'étais promis de la faire, c'est que vous savez qu'il y a un an encore, on parlait de l'Europe des Jean-Claude, hein, il y avait Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker, etc. Maintenant, c'est l'Europe des Mario, hein, puisque Super Mario à la BCE, Super Mario en Italie, il y a des Mario partout. Donc, si on en croit le jeu vidéo, c'est bon signe.
C'est des plombiers qui bougent les fuites. Hein.
Bah oui. Bah, l'économie, après tout, c'est ça aussi parfois. Une dernière.
J'ai une question qui est une autre pacte.
Oui.
Est-ce qu'on inscrit en même temps la règle d'or et puis le principe de déficit structurel et que vous nous avez expliqué qu'on ne sait pas en fait calculer le déficit structurel? Est-ce que ce n'est pas une manière de se donner la possibilité de s'affranchir de la règle d'or?
Oui, c'est-à-dire que, comme toujours, si vous voulez, la règle d'or, c'est vraiment c'est une règle qu'on ne peut pas respecter. Hein, et tout le monde le sait. Hein. Donc, je ne sais pas, moi, Mais on l'inscrit comme, si vous voulez, dans l'ancien pacte de stabilité, il y avait l'idée qu'il fallait atteindre l'équilibre à moyen terme. l'équilibre budgétaire à moyen terme. Personne n'avait dit ce qu'était moyen terme, donc on pouvait chaque année dire oui, ben, je l'atteindrai à moyen terme. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs. Tous les ans, on envoyait à Bruxelles un plan dans lequel on disait bah, en 2017, j'atteindrai l'équilibre budgétaire. Et puis l'année suivante, c'est bah, en 2018, j'atteindrai l'équilibre budgétaire. Et une espèce de cible glissante, comme ça, mouvante. Bon, quand on inscrit la règle d'or dans la Constitution, ça n'est pas la même chose. Hein, voilà, une obligation, mais on ne sait pas exactement quand. Et en même temps, alors, l'idée quand même du... Évidemment, le principe du déficit, de s'appuyer sur le déficit structurel, les économistes ont toujours dit que c'était ce qu'il fallait faire. Et moi, le premier, je l'ai écrit d'innombrables fois, et donc je suis très mal à l'aise en même temps dans la critique que j'en fais, parce que quand on a réformé le pacte en 2004, déjà, on avait introduit ce critère sur le déficit structurel. Et tout le monde a dit, bah, le pacte est mieux, il est moins stupide, pour reprendre l'expression de ce produit, parce qu'au lieu d'avoir le déficit courant, on a un déficit corrigé des fluctuations conjoncturelles. C'est mieux. Sauf que, évidemment, quand on y réfléchit un peu, on se dit, oui, mais comment la Commission elle-même estime-t-elle ce déficit structurel? Et là, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'arbitraires. C'est-à-dire, si on avait une vraie méthode fiable et indiscutable d'évaluation de la croissance potentielle, je serais ravi qu'on ait mis ça. Mais comme on n'en a pas, eh bien, la Commission fait ce qu'elle veut. Par exemple, en ce moment, la Commission dit, bah, la France, qu'est-ce qu'elle fait finalement pour estimer la croissance potentielle? Elle fait une hypothèse sur le chômage d'équilibre. Tout simplement. C'est-à-dire, et alors, en ce moment, elle peut dire, par exemple, en France, il y a presque 10% de chômage. Il suffit qu'elle dise, oui, mais le chômage structurel en France est 9. Ben, ça veut dire que tout le déficit est structurel. C'est ce qu'elle dit, d'ailleurs. Donc, j'exagère, parce qu'elle dit pas 9, elle dit 7 ou 8. Donc, si au lieu de dire 7, elle disait 5, elle serait amenée à dire, ben, l'essentiel du déficit qu'on observe en France aujourd'hui est conjoncturel. Il est lié à une activité trop faible. Mais si elle dit le taux de chômage structurel ou naturel, parce que la France n'a pas fait des réformes, parce qu'on est plein de rigidité, parce qu'on est vraiment des nuls dans la classe des réformateurs européens, notre taux de chômage naturel à nous, il est à 8, non, puisqu'on a des gens mal formés, toutes sortes de choses, notre déficit structurel, il est très faible et notre déficit est très élevé, je veux dire, en l'occurrence. Et ça, c'est bien là où est le problème, c'est que derrière tout ça, il y a des enjeux politiques et que la Commission se cache derrière cette pseudo-technicité et cette pseudo-objectivité économique, en disant bah, c'est de l'économie, c'est incontestable, tous les économistes disent que, alors qu'en réalité derrière il y a un choix politique évidemment, et le choix politique c'est justement à quel niveau on place le curseur de cette croissance potentielle et du taux de chômage, et c'est ça qui est très embêtant, hein. C'est ça qui me gêne. Les Américains ne font pas ça, ils ne sont pas fous. Font pas tant confiance à leurs macroéconomistes, eux. Ils ont raison, hein. Vous avez vu le film Inside Job, hein. Bon.